Je vous invite ce matin à lire avec moi dans le chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux. L'auteur de l'Épître aux Hébreux est un auteur inconnu, mais il met en évidence dans ce chapitre 9 l'efficacité du sang de Jésus pour ouvrir le nouveau sanctuaire et aussi l'inauguration de la nouvelle alliance. Mais les versets 24 à 28 mettent en évidence la première venue et la seconde venue de Jésus. Je vous invite à lire avec moi Hébreux chapitre 9, versets 24 à 28. Car ce n'est pas dans un sanctuaire construit par des hommes, simple image du véritable, que le Christ est entré. C'est dans le ciel même, afin de se présenter maintenant devant Dieu pour nous. De plus, c'est chaque année que le grand prêtre de l'ancienne alliance pénètre dans le sanctuaire avec du sang qui n'était pas le sien. Mais le Christ, lui, n'y est pas entré pour s'offrir plusieurs fois en sacrifice. Autrement, il aurait dû souffrir la mort à plusieurs reprises depuis le commencement du monde. Non, il est apparu une seule fois à la fin des temps pour ôter les péchés par son sacrifice. Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi il est jugé par Dieu. De même, le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il reviendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Je pense que certains d'entre vous ont déjà lu ou entendu cette belle citation, une citation d'un astronaute américain. Il disait « La plus grande chose de l'histoire de l'humanité, ce n'est pas l'homme qui a marché sur la Lune, mais c'est Dieu qui a marché sur la Terre en la personne de Jésus-Christ. » En cette période de l'Avent, ces paroles font écho. Elles nous rappellent la première venue au monde de Jésus, notre Sauveur. L'Avent est une préparation au temps de Noël. Mais le passage que nous venons de lire mentionne aussi une seconde venue. Quelle relation y a-t-il entre l'Avent et cette seconde venue? Nous pouvons dire que l'Avent nous fait aussi vivre, dans une certaine mesure, l'entrée dans l'espérance de la seconde venue de Jésus à la fin des temps. Le texte souligne que Jésus viendra, il apparaîtra une seconde fois pour ceux qui attendent de lui leur salut. Examinons à présent ensemble, la relation entre ces deux venues, celle que la chrétienté commémore au temps de liturgie de l'Avent et la seconde venue qui est annoncée et qui fait l'objet de notre espérance. En résumé, Jésus est venu, Jésus reviendra. C'est cette réalité que nous voulons mettre devant notre yeux, notre regard spirituel. Entre ces deux venues, il existe des ressemblances aussi bien que des différences. C'est toutefois sur les différences que portera le message de ce matin. Quelles sont ces différences? Quelle est leur portée pour nous? Ce sont des questions que je veux examiner brièvement ce matin. Première différence, une venue pour régler le problème du péché et une venue sans rapport avec le péché. La première venue de Jésus-Christ a pour but de régler le problème du péché pour toujours. En quoi consiste ce problème ? L'homme s'est détourné de son Créateur pour se tourner vers lui-même. Il a rejeté Dieu pour chercher sa propre satisfaction. Voilà le problème, le péché dans son essence. C'est la raison pour laquelle Dieu a marché sur la terre en la personne de Jésus-Christ pour sauver l'humanité de ses fautes. C'est à cause de la gravité du péché que la première venue de Jésus a eu lieu. Car selon les Écritures, le péché est un problème qui fait dysfonctionner, d'une part, la relation entre Dieu et les hommes, et d'autre part, entre les hommes entre eux. Il est important de souligner que seule la relation entre le Père, le Fils et l'Esprit n'a pas été déchirée par la transgression d'Adam. Heureusement. Car seule la mort de Dieu fait homme pouvait la régler afin que l'harmonie déchirée en Éden soit rétablie entre Dieu et l'humanité. Puisque le pardon de Dieu, c'est l'acte par lequel il met fin à la déchirure entre la relation qui devrait exister entre lui et sa créature et que notre péché a provoqué. Le pardon de Dieu, par ce pardon, Dieu rétablit la communion entre lui et nous. C'est à cause du péché que la croix trouve tout son sens. Car l'homme est animé, l'homme est enchaîné par la philosophie que je qualifie du bouc émissaire, qui est une conséquence du péché, ne pourrait en aucun cas se sauver lui-même et moins encore son prochain, puisqu'il pêche lui-même en cherchant constamment à transférer la causalité du péché en lui-même et dans le monde sur autre chose. Nous constatons que le péché est un véritable problème, d'où la nécessité de la première venue de Jésus pour le régler et aussi le résoudre. La seconde venue du Seigneur, en revanche, est différente de la première. Elle ne comportera pas de sacrifice pour le péché. Que signifie cette affirmation? Elle signifie d'une part la pleine efficacité de la croix quant au problème du péché et d'autre part que le sacrifice du Christ n'est pas un acte renouvelable dans le temps. Le Christ ne reviendra donc pas pour subir une seconde fois le châtiment du péché, car il n'y a plus problème du péché, ni problème de culpabilité. C'est résolu. La victoire sur le péché est acquise. Cette victoire sur lui a commencé d'être mise en évidence par la résurrection du Christ et continue à l'être par la puissance du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui reçoivent l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit du ressuscité. La seconde venue de Jésus montrera que le problème du péché a été résolu lors de sa première venue. C'est pas, c'est la première grande différence entre la première et la seconde venue de Jésus-Christ, qui sont toutes deux l'objet de notre foi. Nous croyons que Jésus est venu une première fois et nous croyons que Jésus reviendra une seconde fois. C'est une première différence sur laquelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux met l'accent. Il y a aussi une deuxième différence. Une venue en faiblesse et une venue en puissance. Il convient de s'attarder un peu sur le chapitre des différences. À cause de son œuvre, l'instrument de l'obtention de notre salut, le Christ est venu dans le monde, dans ce monde, sous la condition de la faiblesse humaine, de la misère humaine, car son offrande délibérée pour nous libérer du péché incluait son consentement à souffrir, à mourir, l'abandon de sa gloire, naître d'une femme, et enfin sa subordination, tant en humilité qu'en obéissance à la volonté du Père. On comprend bien qu'il était difficile pour certains qui ont connu Jésus pendant son ministère terrestre de lui attribuer un quelconque attribut de la divinité. La réaction rationnelle des spécialistes de la loi et des pharisiens, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul, confirme ce que nous venons de dire. Or, le pardon des péchés est l'un des actes les plus saisissants de Jésus. En revanche, la seconde venue est une venue qui révélera sa gloire, une venue en puissance. Là, l'éclat de sa seconde venue détruira l'adversaire, comme l'annonce la seconde épître aux Thessaloniciens et aussi le livre d'Apocalypse. Jésus se révélera du ciel avec des anges puissants au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Il pétera les nations avec un verge de fer et il les brisera comme on brise des vases de poterie. Lors de sa première venue, le Christ en a en effet renoncé à faire usage de contre ses adversaires sa puissance royale. Il a refusé d'utiliser les troupes d'anges qui étaient à sa disposition pour le garder de tout danger. La première venue de Jésus était centrée sur le service et sur la victoire à remporter sur le péché et non sur la manifestation de sa puissance royale. Nous sommes en présence ici de la sagesse mystérieuse et cachée du Seigneur, dont la mise en œuvre a pour conséquence l'effacement des péchés. C'est une voie mystérieuse et unique que la sagesse inouïe de Dieu a conçue pour que le mal commis à l'encontre de Jésus devienne la victoire même sur le mal et permettre l'expiation et la rédemption de tous les péchés, et qu'ainsi, tout pécheur obtienne la possibilité d'être libéré de sa condamnation en recevant ainsi le fruit de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ en sa faveur à la croix. Mais lors de sa seconde venue, deuxième venue, c'est son pouvoir royal que le Christ exercera par le jugement. Le contraste ne saurait être plus grand dans la manière dont l'autorité du Christ se révèle dans ces deux venues. Une venue dans la faiblesse et une venue en puissance. Troisième différence, une venue sans éclat et une venue dans sa gloire. Le passage en question montre également une autre différence entre la première venue et la seconde venue de Jésus-Christ. Il nous est dit, il apparaîtra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Il apparaîtra, ou littéralement, Jésus sera vu. Nous sommes donc là, encore en présence d'un élément des différences entre la première venue et la seconde venue. Il était certes évident que Jésus a été vu par les hommes de son époque, lors de son ministère en Galilée, en Samarie, en Judée. Jésus a été parfaitement vu, je suis convaincu. Mais son humilité même, sa chair faible comme la nôtre, a été comme un voile pour la plupart des hommes à son époque. Un voile et même une occasion de chute, de telle sorte qu'ils n'ont pas vu qu'il était le merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Lors de sa seconde venue, la différence est que Jésus sera vu dans sa gloire de Fils de Dieu. Il sera vu dans sa gloire comme Dieu est glorieux. Il sera vu là où il n'avait été que pressenti par certains, comme Pierre, à qui cela a été donné. Ce dernier, sous l'inspiration de Dieu, et non par l'effet d'une capacité humaine, a eu cette connaissance juste sur la véritable identité de Jésus. Certains l'ont subordonné, et nous aussi, en ce sens, nous le voyons comme tel par le regard de la foi. Or, la foi n'est pas encore la vue du Fils de Dieu dans toute sa gloire. En revanche, mes frères et sœurs, lors de sa seconde venue, nous verrons le Christ ressuscité tel qu'il est dans sa gloire. Tel qu'il est dans sa gloire. Nous verrons le Christ face à face dans sa gloire. C'est là notre espérance, que de voir notre Seigneur, notre Sauveur, notre Roi des Rois face à face. Quelle espérance! Mes chers frères, mes chères sœurs, que conclure? Sinon que l'importance de ces deux venues, à savoir la première venue du Christ et aussi sa seconde venue, doit être au centre de la foi chrétienne. Lorsqu'il cesse d'être au centre de la foi chrétienne, celle-ci est menacée. Ce n'est plus la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la venue de Jésus une première fois en revêtant la faiblesse humaine pour porter et ôter les péchés du monde et une seconde fois dans sa gloire de Fils de Dieu pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Imaginez que la seconde venue n'est pas mentionnée dans la Bible. Seulement Jésus est venu une première fois. Il n'y a pas de seconde venue. Est-ce que notre espérance est crédible? L'espérance chrétienne est ainsi cohérente lorsqu'elle confesse Jésus qui est venu et qui reviendra. Voilà notre espérance chrétienne. Comme le dit si bien le chant 149 dans le recueil « À toi la gloire », je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Amen. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Mais aussi le Seigneur verra nos yeux. Son regard sera dans notre regard. C'est là l'espérance chrétienne qui s'attache à la seconde venue de Jésus-Christ grâce à sa première venue. Amen.